Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro a trait à la Chine avec pour titre « Doit-on craindre la Chine ?» les attributs de la puissance chinoise. La diplomatie de Pékin ces derniers mois a gagné en influence notamment au sein de l'ONU, qu'il s'agisse d'étouffer Taïwan à petit feu en la privant en un de ses derniers soutiens étatiques dans l'organisation, en intimidant souvent avec succès les entreprises pour qu'elles fassent figurer l'île sur leur site comme partie intégrante de la République populaire de Chine, ou encore en réussissant à imposer son candidat à la tête de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Aujourd'hui, le succès objectif de la République populaire de Chine depuis les réformes de Deng Xiaoping suscite l'admiration et conforte les défenseurs des démocraties illibérales. Nombre d'analystes n'en manifestent pas moins leur anxiété face à la montée de la Chine, qu'il est devenu banal de comparer à la montée de la Prusse dans le système européen du 19e siècle. Avec le président Trump, la question chinoise est revenue au premier plan et selon toute vraisemblance, elle y restera longtemps, d'autant que la Chine montre de plus en plus ouvertement sa volonté de puissance malgré le ralentissement de sa croissance à un niveau inégalé depuis 1992. Nos invités, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Pierre Grosser, historien, spécialiste des relations internationales, professeur et chercheur à Sciences Po et auteur de plusieurs ouvrages et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'histoire du monde se fait en Asie, dont une édition actualisée vient de paraître chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, et enseignant à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
La Chine célébrait au début du mois d'octobre les 70 ans du règne du Parti communiste sur le pays, à grand renfort de parades militaires, 15 000 soldats sur l'avenue rectiligne Chang'an qui déchire Pékin d'est en ouest, des centaines de chars, tout cela en plein bras de fer avec Donald Trump et les manifestants de Hong Kong. Pour Xi Jinping, un anniversaire en forme de couronnement nationaliste, une véritable démonstration de force pour affirmer la renaissance chinoise. Mais pendant que la Chine bombe le torse face à Donald Trump, sa croissance se tasse. Sylvie Matelli, la deuxième économie mondiale ralentit, enregistrant sa performance la plus faible depuis 20 ans. Un ralentissement plus fort que prévu, dont les effets se font désormais sentir sur l'économie réelle. La Chine est-elle vraiment la deuxième puissance économique mondiale ?
Alors, la Chine est très certainement la deuxième puissance économique mondiale. Je vais vous dire ce qui paraît une évidence et je m'explique jusqu'à après. Elle n'est pas encore la première et loin s'en faut. Et elle est sur le plan uniquement économique, et je laisserai mes collègues répondre sur les autres aspects, elle a encore un certain nombre de handicaps. Elle est en train de rattraper très clairement les grandes puissances développées et les États-Unis avec les États-Unis en point de mire au niveau de la technologie, au niveau également des marchés financiers et du financement de l'économie. Parce que ce qui fait une économie développée et une grande puissance économique, c'est la capacité à diversifier son économie et à pouvoir à la fois la financer, à la fois être en pointe dans les technologies et puis avoir cette croissance économique. Donc très clairement, dans le cas de la Chine, il lui manque aujourd'hui les deux principaux handicaps sur le plan économique, c'est probablement la difficulté qu'elle a à stimuler sa consommation. Et ça, ça passe par la mise en place de modèles sociaux, de systèmes de redistribution qui sont pas encore opérants en Chine, ou en tout cas pas suffisamment, et qui devraient devenir véritablement problématiques avec le vieillissement de la population dans les années qui viennent. Et le deuxième aspect, c'est la question de la gouvernance, qui est directement liée aussi à la question de la démocratie et de la démocratisation. Et on voit hein, les risques que pose le fait de ne pas être un régime démocratique où finalement, il peut y avoir des contestations, il peut y avoir des manifestations, mais à la fin, il y a un vote et les citoyens s'expriment. Donc, on est vraiment encore sur une puissance économique qui doit s'affirmer, qui doit se consolider. Alors, pour le ralentissement économique et le ralentissement de la croissance, c'est un vrai problème parce que justement, vous arrivez à compenser tous ces handicaps quand vous êtes dans la situation de la Chine par une forte croissance économique. C'est le fameux pacte social entre la population et les élites politiques, où au fond, comme on génère beaucoup d'argent, on en redistribue pas mal et on calme le jeu. À partir du moment où la croissance économique diminue, vous n'avez plus ces marges de manœuvre, vous n'avez plus ces moyens financiers, et ça peut bouger. Mais la croissance économique chinoise reste encore relativement élevée. Le dynamisme et la dynamique chinoise est encore là.
Alors, élevé, mais c'est vrai qu'on a connu des croissances à double chiffre, 12%, 13%. On est aujourd'hui à 6%, ce qui est ce que je disais du jamais vu pour la Chine. Alors, vous évoquiez première puissance économique mondiale, c'est l'objectif que les Chinois sont fixés pour 2049, centième anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Pierre Grosser, comment expliquer que la Chine affiche aujourd'hui si clairement, si ouvertement ses objectifs, Pierre Grosser?
Pourquoi elle affiche ses objectifs? D'abord, il faut, je pense, nuancer un tout petit peu cette idée qu'elle affiche ses objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce discours de dire qu'on veut absolument régner sur le monde. Hein. Il n'y a pas du tout ce genre de discours, même si par derrière, vous avez toute une armée maintenant de théoriciens, d'experts, etc., qui réfléchissent sur la manière dont une gouvernance globale à la chinoise serait meilleure pour l'ensemble du monde, pour la paix, la prospérité, etc. Il y a effectivement l'idée d'être un peu plus sûr de soi, alors qu'auparavant on faisait profil bas depuis l'époque de Deng Xiaoping. Je crois qu'une des raisons majeures, c'est que aujourd'hui, la Chine est beaucoup plus sûre d'elle-même sur le plan international, tout en étant d'une certaine façon moins sûre sur le plan interne. C'est-à-dire que sur le plan international, étant donné l'évolution et la crise des démocraties, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, on a l'impression que la domination, j'allais dire post-guerre froide, du modèle américain ou du modèle atlantique, pour aller très très vite, est en crise. Donc c'est plus facile, finalement, d'aller discuter à droite à gauche, d'aller faire des investissements à droite à gauche, parce que finalement, il n'y a pas d'opposition, une opposition qui est en partie décrédibilisée. Il y a aussi l'idée qu'on peut s'appuyer sur la Russie, ce qui était un peu moins le cas dans les années 90. Il y avait eu en 97 une grande déclaration sur le monde multipolaire, etc. Mais aujourd'hui, avec la Russie, on a l'impression que tout le front nord de la Chine est tout à fait calme. Donc il y a une opportunité. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisque depuis, en gros, 2000, il y a l'idée qu'on va avoir 20 ans d'opportunité. Et on est toujours dans cette période d'opportunité. Et avec les Américains occupés au Moyen-Orient et le fait que finalement, la Chine a un boulevard devant elle pendant que les Américains sont en difficulté chez eux et sont non pas en retrait, mais en difficulté à cause de ce Moyen-Orient. Je voulais juste rajouter quelque chose sur l'économie quand même, parce que je crois que c'est un élément important. Je crois que la grosse faiblesse pour le moment international de la Chine sur ces questions-là, c'est la monnaie. C'est-à-dire que pour le moment, on est encore dans un monde très largement dominé par le dollar. L'euro est le numéro 2 et le renminbi est quand même très très en retard pour cela. Et donc, les Chinois sont quand même relativement modestes dans leurs discours et dans leurs ambitions en disant que ça prendra du temps. Et donc, l'objectif 2049, c'est un objectif relativement lointain.
Alors, Antoine Bondaz, j'ai cru comprendre qu'il y avait ce sentiment en Chine d'une volonté, à travers l'expression de la menace chinoise, de chercher à changer le régime, tout comme les Occidentaux auraient planifié les révolutions de couleur dans l'espace post-soviétique. Vous confirmez ce sentiment ?
Alors, c'est une inquiétude constante au sein du Parti communiste et surtout des élites de ce Parti communiste. L'idée est que le monde, entre guillemets, est potentiellement hostile à l'émergence de la Chine et que les puissances occidentales seraient prêtes à tout pour limiter ce développement, voire même l'empêcher. Et c'est un thème en réalité qui revient depuis très longtemps dans la rhétorique du Parti communiste. Ça a deux avantages. Ça permet, un, de limiter les interférences ou ce qui est présenté comme des interférences étrangères en Chine. Puis deuxièmement, ça permet de mobiliser la population afin de soutenir et de légitimer le Parti communiste chinois. Ce qui est très important pour le Parti communiste, et en cela les célébrations du 70e anniversaire étaient très importantes, c'est qu'aujourd'hui la République populaire de Chine a vécu plus longtemps que l'URSS et a vécu plus longtemps que la moyenne des dynasties chinoises. Alors, professeur de Harvard, le professeur Yuan, avait fait une étude l'année dernière, statistique sur la durée de vie des dynasties chinoises, qu'il estime à peu près 70 ans. Et il estime également que les deux plus grandes menaces pour ces dynasties, c'était premièrement un soulèvement des élites, non pas de la population, mais des élites. Puis deuxièmement, s'assurer d'une transition la plus souple et la plus efficace possible. Et en cela, le régime communiste à Pékin en a tiré toutes les conclusions. Il faut premièrement consolider et solidifier le régime. Et Xi Jinping a fait un discours extrêmement intéressant au début de l'année 2018, face au comité central du parti, où il expliquait le parti communiste soviétique à 2 millions de membres a réussi à défaire l'Allemagne nazie, et puis le parti communiste soviétique à 20 millions de membres s'est effondré. Et donc les enseignements, c'est de dire que la solidité du régime politique chinois, elle tient avant tout à la solidité du parti et à la solidité interne, la cohésion interne du parti. C'est un thème, encore une fois, qui revient extrêmement souvent dans les discours de Xi Jinping. Et en cela, mettre en avant l'étranger et surtout les puissances occidentales comme une menace permet également de renforcer la cohésion.
C'est ce que vous dites, Pierre Grosser, en déclarant que la puissance dépend finalement d'abord de facteurs internes et que la grande stratégie chinoise a pour objectif premier d'éviter le chaos interne.
Oui, c'est un élément qui est essentiel, parce qu'il y a ce souvenir des années extrêmement difficiles à partir de la fin du 19e siècle, enfin même du milieu du 19e siècle, mais surtout la fin du 19e siècle avec l'arrivée des puissances occidentales. Ce qui est intéressant avec l'importance qu'on donne au 1er octobre, c'est vraiment d'expliquer que c'est grâce au Parti communiste que la Chine a lavé ce siècle des humiliations et est en train de redevenir une puissance, une grande puissance, avec un statut international de numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec la Russie. Enfin, il y a tout un tas de réflexions que l'on peut avoir là-dessus. Mais ce qui est très très important, me semble-t-il, c'est que justement, toutes les critiques que l'on fait à l'égard du parti, et ce que Antoine Mondaz a rappelé il y a un instant, en fait, ça veut dire que les critiques à l'égard du parti, c'est les critiques à l'égard de la force qui a permis à la Chine de sortir de cette situation. Donc ça veut dire que des critiques à l'égard du parti, c'est la volonté de rabaisser la Chine et de la remettre dans la place où elle était au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc il y a un lien très très fort qui opérait entre le Parti communiste chinois et le redressement de la Chine. Or, il y a eu un moment, et notamment quand les relations ont été un peu meilleures avec Taïwan, où il y avait une grande partie du discours chinois, était de dire qu'il y avait une continuité entre l'œuvre de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire des nationalistes, des républicains, et le Parti communiste pour le redressement de la Chine. Par exemple, le statut de la Chine aux Nations Unies, hein, comme membre permanent du Conseil de sécurité, c'est pas grâce à Mao, hein, c'est grâce à Chiang Kai-shek. En gros, la conférence du Caire de 1943 en est un symbole. Et donc, on acceptait que finalement, ça soit un processus un peu plus long. Il y avait une certaine réhabilitation du régime nationaliste, etc. Et là, d'insister vraiment sur le 1er octobre 49, c'est de dire non, c'est nous le Parti communiste qui avons sorti la Chine de cette situation et nous ne voulons pas revenir au chaos. Et attaquer le parti, c'est faire revenir la Chine dans le chaos.
Un commentaire, Antoine Mondaz, Sylvie Matelli. Antoine Bondage.
Je suis tout à fait d'accord avec Pierre Grosser. Et en cela, montrer une puissance militaire tient avant tout à rassurer la population et à exalter le sentiment nationaliste qu'à inquiéter l'étranger. Alors, inquiéter l'étranger, c'est une conséquence indirecte. Et effectivement, les capacités balistiques, notamment, qui ont été présentées par la Chine le 1er octobre, sont sans précédent, que ce soit sur le plan nucléaire ou conventionnel. Mais l'objectif principal, ce n'est pas celui-là. L'objectif principal, c'est premièrement rappeler que l'armée populaire de libération est l'armée du parti. Ce n'est pas l'armée du pays. Et on l'a vu d'ailleurs de façon très symbolique au cours du défilé. Le premier drapeau qui défile n'est pas le drapeau de la République populaire de Chine. C'est le drapeau du Parti communiste chinois. Le deuxième objectif, c'est de montrer à la population que le régime est là pour les protéger. Et cela nécessite notamment que la Chine affiche une certaine ou un certain degré d'ambition. Et j'en reviens à votre question initiale. Quand vous avez maintenant des dizaines de millions de touristes chinois à l'étranger, qu'il faut potentiellement les protéger en cas d'incident, en cas d'attaque terroriste, surtout en cas de catastrophe naturelle, la Chine doit d'une certaine façon chercher à rassurer sa population. Et en cela, elle doit d'une certaine façon, encore une fois, montrer ses muscles. Et la conséquence indirecte, c'est évidemment d'inquiéter notamment les puissances occidentales, mais aussi ses voisins.
D'où d'ailleurs des films, des films très grand public qui sont des blockbusters en Chine, où justement vous avez l'armée populaire qui va sauver des ressortissants chinois à travers le monde, notamment du côté de la mer Rouge.
Ressortissants chinois qui sont extrêmement nombreux de par le monde. La diaspora, c'est 150 millions de Chinois établis hors de Chine. Enfin, le chiffre est absolument impressionnant.
À l'échelle de la Chine, ça reste relativement limité, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ce qui est un véritable atout et sur lequel peut s'appuyer la Chine pour se développer. Je voulais juste revenir, mais d'un point de vue plus économique, sur le rôle du parti. Je pense que c'est une erreur d'appréciation qu'ont fait les Occidentaux au début des années 2000. Ils ont pensé que le développement de la Chine conduirait de fait à sa démocratisation et normaliserait les relations du reste du monde avec ce pays. Ils ont largement sous-estimé l'importance et le rôle du parti communiste chinois. Et lorsque la Chine rentre à l'OMC, l'OMC dans les premières années de son entrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le démantèlement de l'accord sur le textile des années 70 et en 2005, il y a eu des crises autour de ça avec le blocus de conteneurs chinois dans des ports européens ou américains parce qu'il y avait vraiment une invasion de produits. Et pourtant, les dirigeants européens et américains étaient assez peu inquiets parce qu'ils pensaient que ce développement chinois servait les intérêts économiques des pays occidentaux et que de toute façon, la question politique allait se régler très naturellement.
Alors, je voudrais revenir sur la question de l'image. Vous l'évoquez, Antoine Bondaz, dans l'article, donc cette crainte que peut susciter la Chine à l'extérieur. Il y a cette prise de conscience avec cette volonté aujourd'hui en Chine, je parle sous votre contrôle, d'abord d'adoucir la propagande militaire chinoise, et puis cette prise de conscience qu'il est aussi nécessaire de réduire les articles sur la puissance du pays et ses nouveaux équipements militaires. Le tournant, il s'est fait quand à peu près?
Il y a une prise de conscience qui est ancienne au sein du parti. J'étais il y a quelques années à Pékin au sein du département international et notamment de l'équipe de communication du Parti communiste chinois qui avait embauché à l'époque de jeunes Chinois qui avaient été diplômés des meilleures universités japonaises, américaines, qui étaient évidemment membres du parti mais qui connaissaient parfaitement la question de la communication internationale. Et donc cette prise de conscience, elle est ancienne. Le problème pour le Parti communiste, c'est que la dégradation de l'image internationale de la Chine, malgré les différentes initiatives, que ce soit les routes de la soie ou ce qu'on appelle Belt and Road Initiatives ou autres, fait qu'il faut prendre des mesures beaucoup plus actives qu'auparavant. Et donc les recommandations se multiplient en termes de communication pure, par exemple, mieux utiliser les médias d'État pour véhiculer une meilleure image de la Chine. Et c'est extrêmement intéressant puisqu'en 2013, Xi Jinping avait prononcé un important discours disant qu'il fallait faire entendre la voix de la Chine. Et le terme « la voix de la Chine », c'est en réalité un terme qui revient régulièrement de la bouche des porte-paroles du ministère des Affaires étrangères chinois et par exemple un des vice-directeurs de l'information au ministère des Affaires étrangères chinois qui était en visite en Afrique du Sud, en France et ensuite il y a quelques jours lors de la tournée du ministre des Affaires étrangères Wang Yi avait tweeté un tweet extrêmement intéressant. Il avait dit « Mon objectif c'est de montrer et de faire entendre la voix de la Chine » reprenant en réalité les termes de Xi Jinping. Alors encore une fois, les recommandations sont extrêmement diverses mais il y a des points extrêmement précis qui sont mis en avant en termes explicatifs. Notamment, je cite un chercheur de l'Université de Défense Nationale. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'un chercheur de l'Université de Défense Nationale va écrire sur les questions de communication internationale? Et ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant. Il dit que l'évolution des technologies et de l'accès à l'information, même en Chine, fait qu'en réalité, il n'y a plus de frontières entre communication interne pour le parti et pour la population chinoise et communication externe à direction du reste du monde. C'est-à-dire que des chercheurs comme nous pouvons avoir accès à ce que dit le parti à ses membres, mais aussi à la population. Et donc des messages qui visent par exemple à exalter le sentiment nationaliste vis-à-vis de la population va avoir un effet contre-productif à l'étranger. Et donc ce chercheur par exemple appelle à une meilleure coordination de cette communication interne qui est souvent un peu poussiéreuse avec des termes conceptuels qui sont très difficiles à comprendre à l'étranger et la communication plus internationale de la Chine. Et ça c'est évidemment un chantier considérable pour les membres du parti et pour les membres du ministère des Affaires étrangères chinois.
Alors, accès de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce que vous venez de dire. En revanche, l'accès de la population chinoise aux informations extérieures, ça reste verrouillé. Antoine Bondaz, on est bien d'accord.
Alors, il faut aussi relativiser cela. Pour être très honnête, la jeune génération aujourd'hui en Chine a accès d'une façon ou d'une autre et en partie à l'information à l'étranger. Si vous êtes à Pékin et que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe à Hong Kong, vous pouvez en parler avec vos amis qui sont à l'étranger. Énormément de jeunes Chinois ont accès à des VPN qui permettent de contourner cette fameuse muraille de Chine cyber qui a été créée par le parti. Et donc, je ne dirais pas que la société chinoise aujourd'hui vit en vase clos. Après, il y a un deuxième aspect qui est qu'une grande partie des Chinois sont de plus en plus nationalistes, considèrent que désormais la Chine a le droit d'avoir des ambitions et que les puissances, notamment européennes, qui sont déclinantes, et les États-Unis ne sont plus et ne doivent plus dicter l'avenir de la Chine. Et donc je pense qu'il ne faudrait pas résumer cela uniquement à une société qui est parfaitement contrôlée, c'est évidemment le cas, mais il ne faudrait pas sous-estimer le vrai sentiment nationaliste de la Chine, qui parfois pose problème, puisque par exemple, lorsque le parti n'organise pas des manifestations, qu'elles soient anti-japonaises ou contre un autre pays, pouvait avoir des débordements. Et là, c'est au parti, en réalité, de reprendre en main la population pour éviter qu'il y ait justement plus d'incidents.
Alors, les Chinois de plus en plus nationalistes, on aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Je pense notamment aux produits chinois qui aujourd'hui sont tout à fait à même de concurrencer les produits occidentaux. Des produits chinois que les Chinois aujourd'hui privilégient. On en parlera avec vous, Sylvie Matelli. On vous retrouve tous les trois, Pierre Grosser, Sylvie Matelli et Antoine Bondaz, après le journal. À tout de
suite. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique pour cette édition en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro a trait à la Chine avec pour titre « Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de la puissance chinoise ». Nous retrouvons Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, Pierre Grosser, historien, spécialiste des relations internationales, professeur et chercheur à Sciences Po et auteur pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui de « L'histoire du monde se fait en Asie » dont une édition actualisée vient de paraître chez Odile Jacob et Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, et enseignant à Sciences Po. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur le fait que les Chinois étaient en train de devenir de plus en plus nationalistes. Sylvie Matelli, dans cette guerre commerciale à laquelle se livrent Américains et Chinois, on voit finalement les enseignes occidentales avoir aujourd'hui beaucoup de problèmes sur le marché chinois. On a vu les affaires avec Huawei qui a vu ses marques de smartphones bondir en Chine depuis que le groupe a été banni par l'administration Trump pour espionnage. Plus 31% de smartphones vendus pendant qu'Apple dégringole à la cinquième place. Et puis, les Chinois qui privilégient aujourd'hui vraiment, sur d'autres exemples, les produits fabriqués en Chine, étant entendu que les produits chinois aujourd'hui concurrencent véritablement les produits occidentaux.
Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Chine, usine du monde, qui n'est capable de fabriquer que des produits basiques de très mauvaise qualité, c'est terminé. Et la Chine s'est effectivement positionnée. Alors, c'est assez intéressant parce qu'elle s'est positionnée en parallèle de ce qu'ont pu faire les États-Unis, c'est-à-dire d'abord sur les technologies du numérique pour ce qui concerne le grand public. Donc, c'est Huawei et c'est toutes les applications également des téléphones, les réseaux sociaux, etc., etc., pour finalement fédérer la jeune génération. Simplement, jusqu'à très récemment, et là, c'est une réaction, vous l'avez très bien dit, de la guerre commerciale. Le gros problème qu'avaient les autorités chinoises, c'est que les Chinois, et en particulier les jeunes générations de Chinois, voulaient d'abord consommer des produits occidentaux. Mmh. C'était beaucoup plus chic de s'habiller avec des marques françaises que de s'habiller avec des marques chinoises. Aussi parce que même en Chine, il y avait cette idée que les produits chinois étaient bas de gamme et de mauvaise qualité. Et c'est là que la question de la guerre commerciale est particulièrement intéressante parce que, du point de vue des États-Unis, l'attitude américaine est totalement contre-productive. Les nouvelles technologies en Chine de la communication étaient relativement interdépendantes des entreprises américaines et des relations qui avaient été nouées avec les entreprises américaines. On l'a vu avec Huawei, qui est dépendant du système d'exploitation de Google, d'Android. Or, cette guerre commerciale pousse aujourd'hui la Chine et les entreprises chinoises à accélérer la marche vers plus d'autonomie, vers plus d'indépendance, ce qui entraîne une perte de contrôle de la part des États-Unis. Donc l'affaire Huawei aujourd'hui, je ne suis pas sûre que dans 10 ans, elle puisse avoir le même impact et les mêmes retombées, avec en plus, rajouter à ça ce que vous avez très bien dit dans votre question, le nationalisme chinois, qui est systématique dans ce type de situation. Quand vous attaquez, c'est un peu la difficulté des sanctions, quand vous imposez des sanctions économiques, c'est que vous stigmatisez finalement un certain nombre de critiques contre celui qui vous sanctionne.
Alors c'est dire aussi que ce nationalisme chinois va évidemment poser problème aux entreprises étrangères qui ne sont pas encore installées en Chine. Très clairement. Je sais que Pierre Grosser, vous souhaitiez rebondir sur le nationalisme chinois. Alors, je disais en introduction que la montée de la Chine était souvent comparée à la montée de la Prusse dans le système européen du 19e siècle.
Oui, alors ça, c'est une comparaison qui a commencé à être faite déjà dans les années 90, même au début des années 90, et souvent pour essayer de prévoir si oui ou non il va y avoir une guerre contre les Américains, en disant que finalement la Chine, c'est l'Allemagne du 19e siècle, faisant la guerre à la puissance dominante, les Britanniques. Alors la comparaison avec 14 est assez complètement fausse, donc il faut pas rester là-dessus, mais en revanche, la comparaison avec l'Allemagne est assez intéressante. pas sur la montée en puissance de l'Allemagne en Europe, puisque ça s'est fait par des guerres, alors que justement, la Chine ne fait pas des guerres à l'extérieur, en tout cas n'a pas été en guerre depuis 1979. Il y a des comparaisons qui sont intéressantes. La première comparaison, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le nationalisme, c'est-à-dire que en Allemagne comme en Chine, vous avez un nationalisme à la fois par en haut, c'est-à-dire qu'on a des tensions sociales et des risques sociaux, et donc on essaye d'unifier tout le monde autour du nationalisme. Mais il y avait aussi beaucoup d'associations patriotiques et un nationalisme par en bas. Eh bien, en Chine, c'est pareil. Alors, tout à l'heure, on a évoqué les dimensions anti-chinoises. Moi, je me souviens des grands épisodes qui avaient été le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade en 1999, lors de la guerre pour le Kosovo, qui avait provoqué une vague terrible de nationalistes qui avait inquiété, effectivement, le pouvoir à Pékin. Tout à l'heure aussi, on a parlé de cette idée qu'avec la croissance économique, il y avait une classe moyenne, une société civile, et que ça amenait la démocratie. Le gros problème, c'est que la comparaison que l'Allemagne, elle est pas très bonne, c'est que l'Allemagne, dans les années 20 et les années 30, c'est là où il y avait la classe moyenne la plus développée, la société la plus civile la plus développée. On ne peut pas dire que ça a amené vraiment la démocratie, puisque ça a été les classes moyennes un des plus gros soutiens au régime nazi. Une autre comparaison qui, me semble-t-il, est intéressante, c'est ce mélange d'optimisme et de pessimisme qui, à mon avis, est ce qui est le plus dangereux pour les relations internationales. C'est-à-dire l'optimisme, c'est de dire qu'à terme, de toute façon, on est les meilleurs. Ce que disaient les Allemands, on a la meilleure culture, la meilleure musique, le meilleur système politique, etc., etc. Et en même temps, un pessimisme tout à fait considérable en disant on va nous empêcher d'être cette grande puissance, on est encerclé, l'alliance franco-russe, etc. Et là, avec les Chinois, on a l'impression d'avoir la même chose. C'est-à-dire, à terme, de toute façon, c'est nous qui allons gagner la course à pied ou le marathon, comme certains disent, mais en même temps, les autres vont tout faire pour nous faire des crocs en jambes, nous empêcher de monter. Et donc, ce mélange d'optimisme et de pessimisme, semble-t-il, est très dangereux. Et dernier élément que je voudrais juste mentionner, c'est que tout à l'heure aussi, on a parlé du rapport à la comparaison avec l'URSS. La Chine ne veut pas être l'Union soviétique. Elle fait tout pour ne pas être l'Union soviétique, c'est-à-dire l'ennemi de tout un tas de pays, et notamment des États-Unis, de l'Europe, du Japon, etc. Donc il faut pas donner cette impression qu'on est l'Union soviétique, mais aussi parce qu'on réfléchit beaucoup à cette histoire du 19e siècle, la montée en puissance de l'Allemagne, on ne veut pas être l'Allemagne. Donc on fait très attention. En revanche, on dit on va faire mieux que, par exemple, les Français ou les Soviétiques, c'est-à-dire qu'on va être les seuls à être à la fois puissance continentale et puissance maritime. Les Français ont échoué, les Allemands ont échoué, les Russes ont échoué, mais les Chinois vont réussir.
Alors, vous souhaitez commenter Antoine Bondaz ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre Grosser. Les Chinois, et notamment le professeur Yan Xuetong, qui est réputé proche de Xi Jinping, qui est le doyen de l'Institut des études modernes, des relations internationales modernes à l'université de Tsinghua, parle de dilemme de l'ascension. Et c'est bien là la question, en fait, et l'enjeu pour la Chine. C'est comment poursuivre cette ascension sans déclencher une réponse internationale qui pourrait potentiellement y mettre fin. Et c'est évidemment une des priorités des stratèges chinois et un sujet sur lequel, que ce soit les membres du parti ou les membres de l'armée, travaillent depuis déjà plusieurs décennies.
Alors, on sent aussi la communauté internationale, même si ce terme est tellement vague qu'on ne sait plus très bien à qui on a affaire. En tout cas, la Chine, on la laisse œuvrer régionalement, Pierre Grosser, avec la mainmise sur les îles, revendiquée aussi à la fois par le Vietnam et par les Philippines. Alors, je voudrais peut-être en venir maintenant aux deux points qui me paraissent centraux actuellement et pour l'avenir, c'est d'une part Taïwan et d'autre part Hong Kong. On a vu des grandes maisons, pour pas la citer, Dior, en Chine, qui a dû se confondre en excuses après avoir osé afficher une carte de la Chine sans inclure Taïwan lors d'une présentation dans une université. On a vraiment le sentiment que Taïwan, ça va être le grand dossier 2020. Avant ça, 2019, Hong Kong.
Les deux sont liés, puisque l'idée d'avoir un pays de système, c'était normalement la marque de fabrique de la réintégration de Hong Kong à l'intérieur du système à partir de l'accord de 84 et donc à partir de 97 dans les faits. Et donc, si on montre à Hong Kong qu'on est incapable de faire un pays de système, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à Taïwan, on n'y croit pas non plus. Puisque l'idée, c'est pour Taïwan d'avoir exactement le même principe. Et donc, les deux sont liés. D'ailleurs, on a maintenant un certain nombre de Hongkongais qui vont se réfugier à Taïwan. À Taïwan, vous avez des mobilisations pour Hong Kong, etc., etc. Donc, il y a un aspect politique qui est important et il y a aussi une espèce de projection très importante de la partie de la communauté internationale des démocraties qui dit encore plus, il faut sauver Taïwan. Et donc, il y a aussi une espèce de fascination pour Taïwan, qui a réussi une transition démocratique, qui est le premier pays à avoir légalisé le mariage homosexuel, etc., etc. Donc finalement, la preuve que les Chinois peuvent être démocratiques. Donc il y a une espèce de surinvestissement. Hong Kong, on se dit, de toute façon, je dis pas c'est perdu, mais on peut pas faire grand chose. Mais Taïwan, faut protéger. Et en même temps, du côté américain, on comprend pas très très bien quelle est la politique à l'égard de Taïwan. Et surtout, vous avez de plus en plus d'annonces pour dire, attention, d'ici 10 ans, les Chinois auront la supériorité et pourront envahir par la force Taïwan. Comme en même temps, les Américains ont l'air de moins laisser en place cette espèce de deal tacite qui existait, c'est-à-dire en gros, le deal tacite qui existait, c'était les Américains ne favorisent pas et même essayent de freiner l'indépendance de Taïwan et les Chinois n'utiliseront pas la force pour réunifier Taïwan. On a l'impression que des deux côtés, le deal est en train de craquer. Les Chinois ne disent plus qu'ils ne vont pas utiliser la force et du côté américain, sur l'indépendance de Taïwan, on commence à être beaucoup plus vague, on va dire.
Faible, peut-être, aussi.
Faible, je sais pas, le gros problème avec Trump, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Mais en tout cas, cette idée qu'il y a une espèce de fenêtre de vulnérabilité qui va s'ouvrir à partir de 2025-2030, et donc à ce moment-là, militairement, on ne pourra plus rien faire, c'est, je pense, le cauchemar des stratèges américains.
Antoine Bondaz.
Et on a effectivement cette dichotomie court terme et moyen terme. Le pouvoir en place aujourd'hui, et notamment les progressistes à Taïwan, je pense, non pas se réjouissent de ce qui se passe à Hong Kong, évidemment non, mais en bénéficient. Et la présidente, qui était vraiment en ballottage entre guillemets défavorable, apparaît aujourd'hui comme largement bénéficiant des événements, et elle sera très certainement réélu en janvier 2020. Là où la Chine a pu avoir à court terme une petite contre-productive, c'est en réalité qu'elle a utilisé des outils militaires et économiques à partir des années 2000 pour éviter l'indépendance formelle de Taïwan. Et là, elle y est arrivée en 2005, la loi anti-sécession, et puis, encore une fois, cette interdépendance croissante des deux économies. Là où la Chine a un plus grand défi, c'est en réalité de réussir à convaincre la société taïwanaise des bienfaits de la réunification ou de l'unification. Puisque certains vont dire que Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, n'a jamais été gouvernée par le pouvoir communiste. Et là, vous avez besoin d'outils, entre guillemets, politiques et sociétaux. Or, aujourd'hui, Taïwan, c'est un contre-modèle à la Chine. Et Pierre Grosser avait tout à fait raison. Aujourd'hui, ce que les Taïwanais mettent en avant, c'est la possibilité pour une société chinoise d'être démocratique et d'avoir surtout un niveau de démocratie qui n'est atteint par aucune autre démocratie dans la région. Et ça, c'est vraiment une réussite pour Taïwan, en termes de liberté de presse, en termes de droits des minorités, en termes de droits des femmes, en termes, encore une fois, de droits des LGBT et autres. Taïwan est à la pointe et de plus en plus apparaît, entre guillemets, comme une sorte d'îlot démocratique dans une région qui est en partie démocratisée et en autre partie qui est en train de devenir peut-être de plus en plus autoritaire.
Pierre Grosser, Taïwan, c'est insupportable à la Chine. Je veux dire, la République populaire de Chine, elle considère le rapprochement de l'île comme un objectif vital sur lequel aucun compromis n'est concevable. Les raisons ?
Aucun compromis. C'est une province rebelle. Je rappelle que cette unification, qui était en fait de reprendre des provinces qui avaient été perdues à l'impérialisme japonais à partir de 1895, ça devait arriver en 1945. En 1945, Taïwan revient à la Chine, mais c'est évidemment le régime nationaliste à ce moment-là. Et le régime nationaliste donc se replie en 1949 sur Taïwan. Et à ce moment-là, quand les Chinois, le 1er octobre, les communistes chinois reprennent le pouvoir, il y a l'idée de finir le travail d'unification, à la fois au Tibet, ce qu'ils feront à partir de 1951, et puis, bien entendu, sur Taïwan. Or, ce qui a empêché cette invasion de Taïwan et la complétude, finalement, de cette unification, c'est la guerre de Corée. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur le sud, ils ont été obligés de se concentrer sur le nord, ils sont intervenus à partir d'octobre 1950. Donc c'est juste la fin de l'histoire. Et encore une fois, on a parlé tout à l'heure des dynasties chinoises. Il faut toujours se rappeler, ça paraît du béaba, c'est que l'histoire chinoise, c'est sur des milliers d'années, et d'une certaine façon, ils ont le temps. Donc ils savent que de toute façon, ça va se faire. Et donc quand ils se comparent aux États-Unis qui ont 250 ans d'histoire, évidemment, pour eux, c'est nous, on a le temps. Donc de toute façon, Taïwan reviendra à la Chine d'une manière ou d'une autre.
Alors, on va parler un tout petit peu de la Belt and Road Initiative qu'évoquait Antoine Bondaz. C'est donc ce projet chinois de développer ses tentacules dans le monde entier. Sylvie Matelli, on voit des pays être aujourd'hui en difficulté avec la dette finalement contractée à l'égard de la Chine. Est-ce qu'on peut imaginer dans cet objectif de la Chine qui est de devenir la première puissance économique mondiale, eh bien finalement de voir un pays, la Chine, être prise à son propre piège de la dette avec les pays concernés par
C'est en tout cas une hypothèse ou un scénario qui inquiète très fortement les organisations internationales aujourd'hui, dans un contexte d'ailleurs où l'instabilité financière et les bulles spéculatives se multiplient sur l'ensemble des marchés financiers. Très clairement, on a longtemps cru et on présente encore l'image de la route de la soie ainsi, c'est la Chine qui investirait massivement dans les infrastructures. En réalité, la Chine n'investit pas, elle prête de l'argent à un certain nombre de pays pour qu'ils puissent moderniser leurs infrastructures. Dans un premier temps, les pays ont vu l'intérêt qu'ils y avaient. Pensez à la Grèce, à côté de chez nous. Il y a une dynamique de modernisation, il y a une dynamique de relance aussi, de profiter du commerce chinois également, et ça c'est tout à fait utile. Et puis, il y a un moment donné, il y a une prise de contrôle qui est négociée très en amont par les Chinois, qui pèse forcément sur les investissements, et cet endettement qui devient pour un certain nombre de pays totalement insoutenable. On parle beaucoup de l'Asie, et il y a un certain nombre de pays en Asie, alors soit qui ont cédé et qui ont accepté des concessions pour une réduction de la dette, parce que c'est aussi ça le piège de la dette pour les Chinois, c'est qu'ils ont encore la possibilité de renoncer à recouvrer une partie de sa dette moyennant une influence politique. Ils ont suffisamment de réserves pour pouvoir se le permettre. Et puis, l'autre risque, c'est le risque de défaut de paiement de la part d'un certain nombre de pays. Très clairement, en Afrique, la dette contractée par un certain nombre de pays africains à l'égard des Chinois est extrêmement importante et représente une part non négligeable de leur PIB.
Et on l'a vu même en Asie avec le Sri Lanka.
Tout à fait.
Alors, Pierre Gossière, je voudrais rebondir sur le rapprochement entre Moscou et Pékin en conséquence finalement de la nouvelle mini-guerre froide avec les Occidentaux. C'est viable à long terme?
Alors d'abord, c'est pas seulement une conséquence de la mini-guerre froide. C'est-à-dire que le processus a commencé dans les années 80. Je rappelle que les incidents de Tiananmen, incident entre guillemets, mais c'est le terme officiel,
en 1989,
ont très largement été provoqués par la visite de Gorbatchev, puisque les étudiants ont applaudi Gorbatchev qui lui faisait des réformes. Et c'est le moment où la normalisation a eu lieu. Après, dans les années 90, il y a déjà eu des éléments de rapprochement entre les deux. Et ça s'est accéléré avant même 2013-2014, c'est-à-dire le moment avec la crise ukrainienne, l'annexion de la Crimée, etc. On a eu cette impression que les Russes tournaient le dos à l'Occident parce que l'Occident essayait de faire pression sur eux. Donc on est sur des dynamiques relativement lourdes. Et la grande interrogation, c'est que, en gros, tout le monde dit les Russes ont quand même beaucoup à y perdre, c'est-à-dire que sur le long terme, c'est eux qui vont être les partenaires juniors, comme c'est le terme qui est à peu près accepté, qui a même été utilisé par le président de la République. Il y a maintenant un écart de PNB qui est absolument considérable, hein, c'est au moins de 1 à 10, hein, et le budget militaire chinois, c'est à peu près un tiers du PNB russe. Donc vous avez maintenant des écarts de puissance tout à fait considérables. Et donc c'est un risque aussi en Asie centrale, qui est normalement la zone réservée. Et pour le moment, malgré cela, malgré certaines inquiétudes de dirigeants russes, de militaires russes, pas trop des provinces d'Extrême-Orient, parce qu'il n'y a pas eu les migrations que tout le monde prédisait, notamment parce que les salaires russes sont moins intéressants que les salaires chinois, donc évidemment ça n'attire pas énormément. Mais malgré tous ces discours alarmistes pour dire ça ne tient pas à long terme, les relations sont en train de devenir de plus en plus serrées sur tout un tas de dossiers, à la fois l'Asie centrale, l'Arctique, les investissements de la Chine dans le secteur énergétique russe, même si les Russes trouvent que c'est pas suffisant, il y a des investissements. Donc c'est une inconnue géopolitique et on a entendu notre président dire que les Russes ne peuvent pas supporter ça et qu'ils vont revenir vers l'Occident. Pour le moment, on ne le voit pas.
Antoine Bondaz.
Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience d'une des conséquences potentielles à moyen terme de ce rapprochement sino-russe et notamment sur les questions militaires. Les États-Unis vont de plus en plus être impliqués dans les questions asiatiques. Et c'est normal, c'est désormais le cœur de l'économie mondiale. Le risque de conflit à long terme peut être de plus en plus important. Et donc c'est normal qu'une grande partie des équipements et des ressources américaines sur le plan militaire soient investies sur le théâtre qu'on appelle aujourd'hui Indo-Pacifique. Ce qui veut dire que de façon relative, l'engagement américain en Europe va de fait s'affaiblir de façon, encore une fois, relative. Et cela pose de vraies questions pour les Européens dans les relations avec la Russie, dans le fait que la Russie pourrait considérer que les États-Unis sont plus concentrés désormais sur la Chine que sur elle. Et ça pose des questions sur l'organisation potentiellement d'une défense européenne. Alors encore une fois, c'est un serpent de mer, mais plus largement de l'avenir de l'OTAN, de la relation des membres de l'OTAN avec les États-Unis. Et encore une fois, il faut vraiment avoir conscience des implications potentiellement stratégiques de ce rapprochement chino-russe pour les Européens.
Et la Chine et la Russie que l'on voit voter de concert au Conseil de sécurité des Nations Unies sur beaucoup de sujets. C'est la fin de Géopolitique. Merci à chacun. Sylvie Matelli, je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'IRIS. Pierre Grosser, historien, spécialiste des relations internationales et professeur et chercheur à Sciences Po. Je rappelle votre ouvrage « L'histoire du monde se fait en Asie » dont une édition actualisée vient de paraître chez Odile Jacob. Et Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, et enseignant à Sciences Po. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Véronique Durand. À samedi prochain.